Ah, j'ai un drame devant moi. Qui est-ce qui est à la garderie aujourd'hui? Ah, c'est Esther. Esther, elle va te manger, Suzy, fais gaffe. Hein. Esther, elle est très méchante. Tu as raison. Ah. Attends. Il faut passer par là, ouais. Bonjour. J'attends que les petits partent. Voici ma question d'introduction derrière moi. Comment réagissez-vous quand vous voyez quelqu'un qui fait ou qui dit des choses complètement différentes de vous? Comment réagissez-vous face à des habitudes, face à des traditions qui pourraient vous choquer, tellement elles sont à l'inverse de vos propres habitudes et de vos propres traditions. C'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a des confrontations de points de vue qui fusent de partout sur les réseaux sociaux, genre sur Facebook, où des personnes mettent, affirment quelque chose et il y a toutes sortes de réactions qui arrivent derrière. Il y a les gens qui sont d'accord et qui like, qui sont contents de ce qui est dit. Il y a les gens qui sont choqués et qui mettent un petit truc que je suis en colère ou qui disent je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que ce que t'as dit c'est méchant, c'est mauvais. D'autres qui disent rien, c'est la majorité. Puis d'autres qui disent ce que tu dis ça m'a interpellé. Réaction un peu plus constructive. Ça m'a fait réfléchir. Vous, est-ce que vous êtes du genre à trouver quelqu'un de différent de vous hostile? Est-ce que vous êtes du genre à le trouver hostile, cette personne? À vous dire, cette personne-là, elle est méchante? Ou cette personne-là, elle m'énerve? Est-ce que vous êtes du genre à être intrigué? Est-ce que vous êtes du genre à totalement remettre en cause vos valeurs en vous disant, cette personne-là, elle affirme les choses tellement fort que moi, je me pose la question, est-ce que j'ai raison? Dans quel cas êtes-vous? Nous allons lire un passage dans lequel la question des traditions, la question des habitudes est mise en exergue. Et vous remarquerez que vous avez une jolie photo du temple il y a environ un siècle. Enfin, peut-être un peu moins d'un siècle quand même. Tu l'as connu comme 70, ouais, c'était il y a un siècle. C'était en 70, ça? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pas vieux. La prochaine, j'ai une photo plus tard, en fait, elle aura vraiment un siècle pour de vrai. Mais celle-là, ouais, c'est vrai qu'elle est un peu moins d'un siècle. Et donc, on va lire, on va étudier la question des traditions dans l'évangile de Marc. Tout à l'heure, on a lu Marc 4, avec Jésus qui calme la tempête. Et là, on va lire Marc 7. Dans l'évangile de Marc, Jésus interpelle beaucoup les personnes, interpelle beaucoup par exemple les pharisiens. Et donc, il ne va pas déroger à la règle ici. Donc Marc 7 à partir du verset 1. Des pharisiens et des spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots, et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus : pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ? Et je suspends ici le récit pour un petit peu d'explication, peut-être. Donc, comme je vous l'ai dit une fois de plus, dans l'évangile de Marc, Jésus, l'attitude de Jésus et l'attitude de ses disciples surtout, fait se poser des questions aux observateurs. Ici, c'est une question de lavage de mains. Et ce n'est pas une question d'hygiène, mais une question de purification rituelle. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moïse, mais dans la loi de Moïse, il y avait une logique. Plus on approche de Dieu, qui, je vous rappelle, est totalement saint, totalement parfait, plus il faut être pur. Ceux qui lisent l'Épître aux Hébreux dans l'étude publique du vendredi savent de quoi je parle. Quand on était juif, c'était fatigant, parce qu'il y avait sans cesse des choses qui pouvaient nous rendre impurs. Dès qu'on touchait quelque chose qui avait trait à la vie, du sang, du liquide corporel, un mort, quand on touchait un païen, quand on touchait ou quand on mangeait un animal impur, tout ça, ça rendait impur. L'impureté était quelque chose de contagieux. Et quand on était impur, on ne pouvait plus s'approcher de Dieu. On ne pouvait plus aller au temple. Il fallait donc se purifier pour pouvoir réapprocher Dieu. Il fallait faire des sacrifices pour que Dieu pardonne et qu'on puisse se réapprocher de lui. Ça, c'est la loi de Moïse. Mais les pharisiens, eux, avaient poussé cette logique à l'extrême. Pour eux, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui voulait vraiment adorer Dieu, ne devait pas seulement être pur quand il allait au temple, mais il devait aussi être pur la plupart du temps. Quand il était avec d'autres juifs, quand il rentrait chez lui, il devait être pur. C'était une tendance à rechercher un rigorisme extrême, à chercher la pureté parfaite. Et c'était dû à une histoire nationale très tourmentée. Vous le savez, dans l'histoire d'Israël, le peuple a été déporté, a été chassé de sa terre, parce que le peuple avait été infidèle à la loi de Dieu. Et le courant pharisien, le courant des pharisiens, était un courant qui voulait revenir à une fidélité authentique à Dieu, pour que la catastrophe ne se renouvelle pas. Et c'est pour ça qu'ils avaient ajouté une tradition encore plus sévère que la loi de Moïse, pour être sûr de ne pas désobéir à la loi de Moïse. Et c'est pour ça qu'il fallait très souvent se laver les mains, pour se repurifier avant de manger, histoire d'être sûr de ne pas être impur trop longtemps et de ne pas être confronté à une catastrophe envoyée par Dieu comme malédiction. Donc ils avaient mis au point un système de règles ultra exigeantes. Et Marc, dans ce texte, signale bien que ces règles constituent leur tradition. Il le dit trois fois ici. C'était leur tradition. Ce n'était pas la loi de Moïse. C'était leur tradition. Comment Jésus va-t-il répondre à ces Juifs qui veulent plaire à Dieu ? Et j'insiste, les pharisiens veulent plaire à Dieu. Eh bien, ils veulent réagir d'une manière intéressante. Hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qui me rend n'a aucune valeur. » Car les enseignements qu'ils donnent ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous ? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande de Dieu », alors vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Celle que vous vous transmettez. et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Je suspends à nouveau le cours du récit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus n'est pas très compréhensif face à des principes qui semblaient, aux yeux de tous, aller dans le bon sens. Il n'est vraiment pas compréhensif. Première attaque contre les Juifs, contre le principe des Juifs. Première attaque avec une citation d'Ésaïe. La tradition, avec ses règles, n'est qu'un truc d'homme. Cette tradition ne rapproche pas de Dieu. Elle n'offre aucun culte valable. Elle remplace même la véritable loi de Dieu. Ésaïe l'avait déjà décrit en son temps, au 8e siècle. Mais Jésus confirme pour les gens de son temps, vous faites exactement ce que Ésaïe a décrit avec votre tradition. Vous faites le contraire de la loi de Dieu. Seconde attaque. Ah pardon, je vous ai fait le contraire. Puis seconde attaque avec le cinquième commandement. Le cinquième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Avec cette tradition qui veut mettre l'honneur de Dieu au-dessus de tous, les pharisiens pouvaient en arriver à laisser leurs propres parents crever de faim tout en donnant toujours plus à Dieu. Ils se disaient, c'est vraiment bien, c'est vraiment super, c'est une marque d'honneur suprême pour Dieu. L'assistance que je peux avoir pour mes parents, l'argent que je pourrais dépenser pour les assister, je vous rappelle qu'il n'y avait pas un système de retraite très performant à l'époque, et que le système de retraite, c'était le revenu des enfants. Au lieu de leur donner de quoi manger, pour honorer Dieu, je vais donner ce que vous devez donner à mes parents, je vais le donner à Dieu. C'est la règle du corban, c'est-à-dire tout la majeure partie pour Dieu, la meilleure part pour Dieu, au lieu de la donner à d'autres. Mais ça avait pour conséquence de violer le cinquième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Mais pour les pharisiens, c'était pas grave. Il valait mieux vraiment bien respecter les quatre premiers commandements qui avaient pour bénéficiaire Dieu, et quitte à violer un petit peu les six derniers qui avaient pour bénéficiaire le prochain. Parce qu'il valait mieux avantager Dieu par rapport au prochain. Mais Jésus remet les choses dans l'ordre et leur dit, en violant le cinquième commandement, vous annulez toute la loi. Vous faites le contraire, l'exact contraire de ce que Dieu voulait. Leur tradition pieuse n'honore pas la volonté de Dieu, mais au contraire, elle la dénature. Et à ce stade du récit, nous savons ce que Jésus pense de la tradition en général. Il n'est pas très d'accord avec des traditions qui ont tendance à se substituer à la vraie loi de Dieu. Mais que pense-t-il de ces mesures de purification systématique? Il le dit par la suite. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de tout ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsque Jésus, laissant la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas ce que je viens de dire, ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Jésus affirme quelque chose de très, très, très important. L'homme n'est pas un être bon qui a besoin d'être préservé d'impuretés extérieures. L'homme est déjà impur de l'intérieur. Le mal est déjà présent en lui depuis le départ, depuis sa naissance. Le péché habite en lui. Il faut donc, au contraire, une intervention extérieure qui purifie les mauvaises pulsions intérieures. Cette intervention, Jésus l'effectue pendant son passage sur terre, en guérissant et en pardonnant de nombreuses personnes cabossées qu'il rencontrait, des personnes qui souffraient du péché. Et d'ailleurs, dans les versets qui suivent, qu'on ne va pas lire, il guérit deux païens, deux personnes qui ne sont pas juives, la fille d'une syro-phénicienne qui était démonisée, et quelqu'un qui était sourd-muet. Il les délivre de leur péché. Ces deux personnes sont rituellement très très impures, mais Jésus n'hésite pas à aller à leur contact. Et pour le surmuer, c'est même assez crade au XXIe siècle, parce qu'il crache dans sa main, et puis il touche sa langue, et il met ses doigts dans les oreilles. Et ça purifie le sourd-muet, qui se met à parler, se met à entendre. Miracle, mais miracle un petit peu bizarre, où c'est vraiment Jésus qui touche pour transmettre sa pureté à ce sourd-muet, qui non seulement est sourd-muet, mais en plus il est païen. Jésus montre par là même que c'est son intervention extérieure qui peut purifier les personnes. Mais bien sûr, c'est le moment où Jésus va intervenir de manière décisive pour purifier les humains, c'est sur la croix. Et ensuite, après sa résurrection, quand son esprit habitera tous ceux qui ont mis leur foi en lui. C'est à ce moment-là qu'il y a une purification intérieure profonde qui va s'effectuer, parce que Dieu va intervenir de manière décisive dans le cœur de chaque homme qui met sa foi en Jésus. Et je rappelle que quand je dis chaque homme, j'embrasse aussi chaque femme. Des règles, des traditions, des bonnes habitudes ne feront jamais mieux que la croix de Jésus. Des règles, des traditions, des bonnes habitudes ne feront jamais mieux que la sanctification de l'Esprit-Saint. Et en fait, les règles, les traditions et les bonnes habitudes pourraient peut-être même avoir l'effet inverse. Quand on lit ce passage, les pharisiens croyaient bien faire, Jésus leur dit, vous faites le contraire. Vos règles sont au contraire une barrière, une forteresse pour éviter que Dieu agisse par sa loi dans vos cœurs. Vous n'avez rien compris aux règles de pureté. C'est ça, la photo de 1900, normalement, d'après Internet. Personnellement, je n'étais pas né, et personnellement, je pense que vous non plus. Jésus affirme que les traditions doivent être remises en cause. Les traditions doivent être critiquées. Critiquées dans le sens d'examiner à la lumière des Écritures. Tout ce que nous faisons, qui est hérité de notre famille, de notre groupe ethnique, de notre tradition nationale, de notre tradition ecclésiale. Tout cela doit être critiqué, doit être examiné, remis en cause à la lumière des Écritures. Est-ce que ce que nous avons l'habitude de faire, ce qui est naturel pour nous, est-ce que Dieu est d'accord ? Est-ce que Dieu est d'accord ? Est-ce que ça sert le plan de Dieu ? Est-ce que ça fait avancer le royaume de Dieu ? C'est la question que Jésus veut poser avec ce passage de l'évangile de Marc. Du coup, il y a deux questions très simples qu'il faut se poser. Ces traditions, d'où viennent-elles ? D'où viennent-elles ? Et pourquoi faire ? Pourquoi est-ce que j'ai ces habitudes ? Pourquoi est-ce que j'ai ces principes ? Sont-ils valables ? C'est comme ça qu'on remet en cause les choses, et c'est comme ça aussi qu'on aide à avoir un esprit critique par rapport à toutes les choses, pour être sûr que les réflexes que nous avons ne soient pas des réflexes impies, des réflexes qui n'honorent pas le Seigneur Jésus. D'où viennent les choses que nous faisons ? Et histoire de bien identifier les habitudes que nous avons, d'où ça vient ? Parce que bien sûr, on a des traditions familiales, ethniques, nationales, ecclésiales, qui peuvent venir de la Bible. Donc en fait, on peut remonter la source, et on peut se dire, bon, bah, ça a l'air d'être bien, quoi. Ça a l'air d'être conforme à ce que dit la parole de Dieu, ou, si c'est pas dans la Bible, bien sûr, on a plein de traditions qui peuvent être aussi extrêmement bonnes et qui viennent pas de la Bible, genre se laver les mains, puisqu'on en est à la purification, se laver les mains avant de manger, c'est une bonne idée, pour ne pas choper des microbes qui pourraient nous rendre malades toute une semaine, par exemple. Je parle en connaissance de cause. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais en tout cas, se poser la question, pourquoi est-ce que je fais les choses ? Est-ce qu'il y a une bonne raison pour le faire ? Et si on pense qu'il y a une bonne raison pour le faire, il faut continuer à le faire. Donc, on peut démontrer que nos traditions répondent à une bonne problématique. Et en observant, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça, c'est efficace pour répondre à cette problématique ? Pour l'instant, on sait que la problématique est bonne, mais est-ce que c'est efficace ? Si c'est pour lutter contre les microbes, est-ce que se laver les mains avant de manger, est-ce que c'est efficace ? Et si je réponds oui, c'est efficace, il faut que je continue à le faire parce que ça sert la problématique de départ. Là, je suis en train de vous énoncer la méthode scientifique, hein, en fait. Mais bien sûr, si c'est pas efficace, ce que je suis en train de faire, il faut que j'arrête. Ou il faut que j'améliore les choses. Jésus, aux pharisiens, il leur dit « Votre tradition n'est pas du tout efficace pour purifier. » Parce que vous avez l'impression que vous vous purifiez, mais en fait, vous êtes déjà pourri à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien. Bibliquement, on peut justement démontrer que ce que nous faisons a une source biblique, et donc on peut se dire « On peut continuer. » Mais après, est-ce que ce qu'on fait, c'est efficace pour répondre à la problématique biblique ? Si c'est oui, il faut continuer. Si c'est non, il faut arrêter ou améliorer. Et si je vous prends un petit peu la tête avec cette méthode scientifique, un peu rationnelle comme ça, c'est parce que je déplore souvent un manque de réflexion et de cohérence de la part des chrétiens à propos de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils font. Parce que la plupart des personnes qui nous voient peuvent nous demander « Mais en fait, pourquoi est-ce que tu penses ça ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et c'est pas génial, en fait, quand on leur dit « Bah, c'est parce que j'ai toujours fait comme ça. » Le « parce que j'ai toujours fait comme ça » est la pire raison du monde. Parce qu'en fait, ça nous disqualifie. Ça ne nous rend pas cohérents, ça ne nous rend pas crédibles dans ce que nous faisons. Le « parce que j'ai toujours fait comme ça » n'a aucun fondement. Sinon, un fondement traditionnel qui ne dit pas si c'est bien ou si c'est mal. Et si quelqu'un sort n'importe quel raisonnement le plus pourri du monde, mais n'importe quel raisonnement pour contredire le « c'est parce que j'ai toujours fait comme ça », il aura raison. Parce qu'un raisonnement est toujours supérieur à rien du tout. La crédibilité est très très importante, est incontournable pour notre témoignage. Et on voit avec Jésus aussi que la cohérence est incontournable aussi pour notre vie chrétienne pour savoir, et je le répète, et je le rabâche, pour savoir si nous plaisons à Dieu ou si finalement Dieu n'est pas d'accord avec nous. Comme critère, il y a aussi la question des bénéficiaires. Qui est bénéficiaire de nos habitudes ? Qui est bénéficiaire de nos traditions ? D'après la Bible, d'après Jésus, et d'après notre passage, il faut qu'il y ait deux bénéficiaires. C'est assez simple. Il faut que nos habitudes honorent Dieu, c'est-à-dire qu'elles fassent sa volonté, et pas qu'elles deviennent des barrières pour ne pas faire sa volonté. Et il faut aussi qu'elles soient au service de la libération de l'homme, de la libération de notre prochain. C'est la deuxième tablette des 10 commandements. Et donc, à chaque fois, il faut savoir, est-ce que j'honore Dieu et est-ce que je rends service à mon prochain dans ce que je fais ? Est-ce que je libère mon prochain ? Parce que dans ce que je dis, dans le d'où ça vient et pourquoi faire, en fait, on pourrait très bien dire, moi, ce que je fais, je le fais parce que d'autres l'ont fait avant moi et ça a toujours bien fonctionné. Et pourquoi je le fais ? Parce que ça me fait du bien. Et ça, c'est un truc que tout le monde dit aujourd'hui. C'est la meilleure raison du monde pour la plupart des gens aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Parce que ça me fait du bien. Et souvent, on ajoute derrière, parce que ça fait de mal à personne. Ça fait de mal à personne et ça me fait du bien, donc j'ai le droit de le faire. Argument, massue. Ça me fait du bien, donc ça va. Et si ça fait de mal à personne, ça va aussi. Mais en fait, la question, c'est est-ce que ça me fait du bien ? Par exemple, exemple classique, la question des troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, les fameux TOC. Et on a vu plein d'émissions face à ces TOC. Par exemple, une personne qui va être obligée de regarder 15 fois ou 20 fois si elle a bien fermé sa porte d'entrée avant de partir. Il faut qu'elle vérifie 15 ou 20 fois et elle compte les fois. Sinon, c'est pas possible. C'est une maladie psychiatrique, hein, voilà. Et en fait, quand vous demandez à cette personne-là pourquoi est-ce que tu fais ça, elle dit parce que il faut que je le fasse et une fois que je l'ai fait, hop, c'est bon. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Il suffit juste que j'accomplisse mon rituel et ça me fait du bien. Et après, on lâche l'affaire. Donc il suffit de respecter ces rituels-là et ça ira très bien. Donc pour elle, les raisons sont bonnes. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Mais en fait, la question, c'est est-ce que ça la libère ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui l'emprisonne, ces TOC ? La réponse est bien évidemment oui. Oui, cette maladie psychiatrique emprisonne. Cette maladie psychiatrique pose un véritable problème. Alors, je suis allé dans l'extrême avec les TOC, mais il se pourrait que nous ayons aussi des habitudes qui soient moins visibles, moins graves, qui nous emprisonnent, qui nous fassent du mal, qui ne nous rendent pas service dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec notre prochain. Et c'est là où il faut que nous prenions du recul pour justement voir dans nos habitudes ce qui nous rend service. Et c'est là aussi où les frères et sœurs à l'Église peuvent aussi nous dire des choses. C'est là où ils sont utiles pour nous dire, là, à mon avis, dans cette habitude-là, tu pourrais la changer et ça pourrait mieux se passer. Et je remercie les frères et sœurs ici même de me le dire à moi assez régulièrement. Et c'est bien de se le faire, de le faire, parce que ça nous permet d'entendre des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais ça permet des fois de réajuster des habitudes, des manières de faire, qui peuvent être améliorées. Avant-dernier principe, avant de terminer, gare à l'idolâtrie. Gare à l'idolâtrie, parce que il y a des principes tout à fait biblique, donc on peut vraiment retracer hein, bibliquement et dire ce que j'ai l'habitude de faire, Dieu est d'accord avec. Dieu est d'accord avec. Mais un principe tout à fait biblique peut aussi devenir une idole si on insiste trop dessus en oubliant d'autres éléments bibliques qui pourraient rééquilibrer ce principe biblique. Exemple, je suis très attaché au fait de plaire à Dieu. Donc, il y a des règles. Il y a des règles, et il faut pas déroger à ces règles, parce que sinon, on plaît pas à Dieu. Et si on déroge à ces règles, on est puni. C'est normal. Truc cassant. Ce que faisaient les pharisiens, par exemple. Dieu n'était pas très d'accord avec ce principe ultra rigoriste. Mais en face, il peut y avoir le principe inverse, le principe « mais il faut se détendre, tout est fondé sur la grâce, Jésus nous pardonne, nous accepte tels que nous sommes, il faut se détendre. » Principe avec lequel Jésus n'est pas d'accord non plus. Parce que se détendre, parfois trop se détendre, c'est aussi désobéir à Dieu et ça pose problème. Mais pourtant, la grâce, c'est biblique. Obéir à Dieu, c'est biblique, les deux sont bibliques. Mais si on appuie trop sur l'un en oubliant l'autre, eh bien ce principe devient une idole et on désobéit à Dieu aussi. Il faut aussi faire attention aux traditions et je dois dire, en côtoyant un sacré paquet d'églises, qu'au niveau des traditions ecclésiales, il y a parfois une teinte comme ça, une teinte rigoriste ou une teinte un petit peu laxiste. Alors, une teinte, donc ça ne veut pas dire que c'est dans un extrême ou dans un autre. Hein. Mais parfois, il y a une teinte un peu plus appuyée sur un élément ou un autre. J'ai pris ces éléments-là, et c'est mon dernier point, je prends ces éléments-là entre le laxisme et le rigorisme, parce que je me dis qu'il faut éviter les deux extrêmes, il faut viser au milieu, il faut viser une théologie équilibrée. Jésus n'encourage pas à se détendre avec la volonté de Dieu. Il n'encourage pas non plus à prendre la loi comme une arme pour dominer, une arme pour être cassant, une arme pour être sec. Il faut être entre les deux. Alors, je finis avec deux dernières paroles de Jésus par rapport à cette tradition. Des paroles qui touchent aux parents, au père et à la mère, ce cinquième commandement qu'il a énoncé dans Marc. Et là, je vais prendre deux passages qui sont dans Matthieu et qui, justement, poussent à prendre du recul face aux traditions que nous avons reçues. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Les questions familiales passent après la parole de Dieu, d'après Jésus. Et pour enfoncer le clou, deux chapitres plus loin dans l'évangile de Matthieu, voici ce qu'il dit. « Celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Je vous rappelle qu'il dit cela en ne laissant pas sa mère, Marie et ses frères l'approcher en disant « Ma vraie famille, ce sont mes disciples. » À cette époque-là, peut-être que Marie et ses frères ne croyaient pas beaucoup en lui. La vraie bonne tradition, c'est la tradition biblique. Amen. Je vous invite à prier.